Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel du mercredi 3 juillet 2019. Raissa Girondin, votre compagnie, voici les titres. Réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la Libye. Un raid aérien a détruit un centre de détention pour migrants près de Tripoli, faisant au moins 55 morts. Au Soudan, la contestation a repris ses négociations avec les généraux. Les médiateurs veulent des résultats concrets dans les 72 heures. Le Nigeria va finalement rejoindre la zone de libre-échange continental lors du prochain sommet de l'Union africaine. L'Iran lance un nouvel ultimatum si les signataires de l'accord de Vienne ne tiennent pas leurs promesses.
Ce qui est dangereux, c'est les situations dans lesquelles on a vraiment un conflit qui bouillonne et des situations sur lesquelles on peut perdre le contrôle. C'est plutôt dans cette situation où on a peur que l'arme puisse être utilisée.
Vous retrouverez également le journal de la CAN, mais tout d'abord, le journal. L'ONU a vivement condamné ce mercredi le raid aérien sanglant contre un centre pour migrants près de la capitale Tripoli. Un haut responsable des Nations Unies en Libye a déclaré à la VOA que le bilan des victimes s'alourdit à 55 morts et Kabadou.
Salamé appelle la communauté internationale à condamner ce crime et à imposer les sanctions appropriées à ceux qui ont mené cette opération en violation flagrante du droit international humanitaire. C'est la deuxième fois que ce centre pour migrants de Tajoura, en banlieue de Tripoli, et où s'entassent plus de 600 personnes, est touché depuis le début de l'offensive lancée le 4 avril par le maréchal Khalifa Haftar. Une offensive qui vise à s'emparer de la capitale, siège du gouvernement d'Union, reconnu par l'ONU. Lamanou l'a maintes fois exprimé son inquiétude sur le sort d'environ 3500 migrants et réfugiés en danger dans des centres de détention situés près des zones d'affrontement. Et malgré une instabilité persistante, la Libye reste un important pays de transit pour les migrants, fuyant les conflits et l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui en urgence sur la Libye. La réunion se tiendra à huis clos. Au Soudan, les chefs de la contestation acceptent ce soir de reprendre sous condition des négociations directes avec les généraux au pouvoir, au lendemain d'une invitation des médiateurs à discuter de la formation d'une instance de transition. Nathalie Barge.
L'ALC a tenu une réunion et a décidé d'accepter l'invitation à des négociations directes, a indiqué en conférence de presse un meneur de la contestation, Madani Abbas. Parmi les conditions posées figure la mise en place d'un cadre temporel de 72 heures pour ces négociations, a souligné Madani. La contestation réclame également une copie du texte du plan de médiation comprenant les amendements qu'elle a proposés, en premier lieu celui portant sur la nécessité de discuter principalement de l'instance de transition. Depuis la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir en avril, le Conseil militaire est engagé dans un bras de fer avec l'Alliance pour la liberté et le changement. Les généraux ne se sont pas encore prononcés sur l'invitation lancée mardi par l'Union africaine qui a convié les deux camps à reprendre les négociations dès mercredi. Mardi, les médiateurs avaient assuré que les discussions allaient porter sur cette instance de transition, un conseil souverain constitué de 8 civils et 7 militaires.
Le Soudan du Sud a renforcé sa surveillance de la frontière avec la République démocratique du Congo. Un cas d'Ebola a été recensé à 70 km de son territoire. Un patient atteint du virus Ebola a été identifié à Ariwara, une commune de l'Ituri dans le nord-est de la RDC. C'est ce qu'a rapporté le docteur Pini Nimol, directeur général du Centre de réponse d'urgence et de contrôle des maladies pour le Soudan du Sud. Il s'agit du cas d'Ebola le plus proche de la frontière avec le Soudan du Sud depuis le début de l'épidémie actuelle en RDC en août 2018, selon le médecin. Le Nigeria a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey ce week-end lors d'un sommet de l'Union africaine. Le président de la première économie d'Afrique disait vouloir donner plus de temps aux investisseurs nigérians. Abdourahmane Dia.
Le Nigeria entrera dans la zone de libre-échange continentale au prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, a fait savoir la présidence du Nigeria ce mardi sur son compte Twitter, une annonce surprise après des années de refus catégorique. Selon Abuja, la priorité désormais sera de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande et les importations massives qui menaceraient l'industrie nigériane. De son côté, le commissaire de l'Union africaine pour le commerce et l'industrie, Albert Muchanga, s'est réjoui de cette confirmation officielle. « C'est un développement positif et important », a-t-il écrit sur Twitter. L'Érythrée, le Nigeria et son voisin le Bénin, très dépendants du géant nigérian, sont jusque-là les pays à n'avoir pas signé cet accord entré en vigueur fin mai, avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022.
Le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué l'attaque du camp d'Inat dans l'ouest du Niger à la frontière avec le Mali. 18 soldats nigérians ont été tués dans cette attaque lundi. Au Kenya, 3 hommes reconnus coupables d'avoir aidé les auteurs de l'attaque contre l'université de Garissa en 2015 ont été condamnés aujourd'hui à de lourdes peines de prison. Un Tanzanien a été condamné à la réclusion à perpétuité et 2 Kenyans à 41 ans de prison pour leur rôle dans ce massacre qui avait fait 148 morts. En Tunisie, le djihadiste qui s'est fait exploser dans la nuit durant une opération sécuritaire dans la cité populaire Intilaka, près de Tunis, était le cerveau du double attentat suicide de jeudi dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Selon le porte-parole du ministère, le suspect planifiait une opération ciblant des sécuritaires. Il a activé une ceinture d'explosifs au moment où il a été atteint par des tirs de forces de sécurité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a déclaré aujourd'hui qu'il mettrait à exécution dès dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire. Téhéran ignore ainsi les avertissements de ses ennemis et de ses partenaires. Morgan Guiriec.
Le président Hassan Rouhani a de nouveau accusé les États-Unis, l'Europe, la Chine et la Russie d'être responsables de l'impasse où se trouve l'accord de Vienne. Monsieur Rouhani assure que la décision iranienne est prise en vertu de dispositions permettant à une partie de s'affranchir temporairement de certains de ses engagements si elle estime qu'une autre ne tient pas les siens. L'accord de Vienne est menacé depuis que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement en mai 2018, réimposant des sanctions drastiques contre l'Iran. Le 8 mai, un an jour pour jour après le retrait américain, Téhéran a annoncé qu'il ne se sentait plus tenu de respecter les plafonds de l'accord limitant l'enrichissement de son uranium. L'annonce de Téhéran survient sur fond de tensions exacerbées avec les États-Unis. Le président Trump, dans un tweet, a dit que l'Iran doit cesser de jouer avec le feu.
En Syrie, une fosse avec 200 corps, dont ceux de personnes apparemment exécutées, a été découvert près de Raqqa, ancienne capitale du groupe État islamique dans le nord du pays. 5 corps habillés d'une combinaison orange, tenue parfois portée par les otages de l'État islamique, ont été également retrouvés, selon un responsable local, Yasser Al-Khamis, et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Kremlin a annoncé aujourd'hui que les détails sur l'incendie qui a coûté la vie à 14 personnes dans un sous-marin de recherche de l'armée russe ne seront pas rendus publics et invoque le secret d'État. L'état-major des forces armées russes dispose d'une information complète sur la tragédie, a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. 14 marins ont trouvé la mort lundi soir, intoxiqués par des éméanations dues à l'incendie d'un mystérieux sous-marin. Au Yémen, les rebelles houthis, considérés comme proches de l'Iran, ont intensifié leur attaque de drones et missiles sur des villes d'Arabie saoudite. 9 civils ont été blessés mardi dans une attaque contre un aéroport civil dans le sud de l'Arabie saoudite, selon la coalition militaire dirigée par Riyad. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Il n'y a pas de match aujourd'hui. On connaît désormais les affiches des huitièmes de finale. L'Ouganda et le Sénégal ouvriront le bal vendredi. Le Maroc sera opposé au Bénin. Madagascar fera face à la République démocratique du Congo. Le Ghana jouera la Tunisie. Duel ouest-africain entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'Algérie croisera les crampons devant la Guinée. On aura le choc Nigeria-Cameroun. Et le pays hôte, l'Égypte, affrontera l'Afrique du Sud. Les dernières rencontres de la phase de poule se sont disputées hier dans les groupes E et F. Dans le groupe F, les Black Stars du Ghana, vainqueurs de la Guinée-Bissau 2-0 à Suez, passent devant les Lions indomptables du Cameroun, tenus en échec par les Béninois 0-0 à Ismaïlia. Les écureuils joueront le premier huitième de finale de leur histoire depuis Cotonou. Au Bénin donc, voici la correspondance d'Élisée Mpatine.
Le Bénin a décroché le point qui lui manquait pour finir meilleur troisième face à des Camerounais déjà qualifiés. Après le faux pas de 2004, 2008 et 2010, l'équipe entraînée par Michel Dussuyer se retrouve au second tour lors de sa quatrième participation, ceci grâce aux trois matchs nuls enregistrés sans la moindre victoire ni la moindre défaite au terme de ces trois sorties dans la poule F. Le technicien français et ses poulains peuvent être fiers d'avoir franchi ce palier très important qui fait le bonheur de tout le peuple béninois dont quelques supporters rencontrés ont donné leurs impressions.
Seul le travail peut payer. Le Bénin a travaillé et est récompensé. Quand le travail y est, on a accordé de bons résultats. Le Bénin, c'est la meilleure de ses prestations depuis moi. J'ai vu le jouer que je suis le football et c'est à leur actif. Félicitations à eux.
D'abord, je vais dire bravo aux écureuils du Bénin parce que c'est la première fois où le Bénin joue les matchs de poule sans aucune défaite. Et à la clé, ils ont 3 points et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Je les félicite beaucoup.
Les écureuils se lanceront donc à la conquête du Maroc le 5 juillet au Caire. Cotonou, Élisée Mpatine, VOA Afrique.
Le Bénin a joué le coup à fond, tout comme la plupart des pays lors de ses derniers matchs. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ses dernières rencontres de groupe dans son coup de sifflet.
Dans cette nouvelle formule à 24 équipes, où la phase de groupe sert surtout à éliminer les 8 formations les plus faibles, les 4 dernières rencontres jouées simultanément ont surtout permis de compléter le casting des 8e de finale ébauchés depuis dimanche. Ces ultimes matchs se sont pourtant déroulés dans des circonstances particulières. Tout d'abord, 3 équipes à 3 points, la RDC, le Kenya et l'Afrique du Sud, attendaient de connaître leur sort définitif tout en redoutant une performance bénin de l'Angola, de la Mauritanie ou de la Tunisie. La seconde inconnue se situait au niveau de l'équité. Le Cameroun et le Mali, déjà qualifiés dans les poules E et F, allaient-ils jouer le jeu à fond? Tout le monde se rappelle encore du match de la honte opposant l'Allemagne à l'Autriche lors du Mondial espagnol de 1982, qui vit les deux cousins germaniques s'entendent pour se qualifier sur le dos d'une héroïque équipe algérienne après un arrangement manifeste sur le terrain. C'est cette forfaiture qui amena la FIFA à faire jouer les derniers matchs de poule à la même heure. Par contre, à Ismaili contre le Bénin et à Suez face à l'Angola, Camerounais et Maliens ont joué franc jeu afin de garder une dynamique positive pour la suite de la compétition. Et si le Cameroun a opéré quelques changements en attaque, c'était pour départager des joueurs de valeur égale. On le voit, sur le plan moral aussi, l'Afrique se démarque également de l'image négative de ce que certains aiment lui coller. En fin de compte, au terme du suspense, tous les cadors sont qualifiés, en plus de 2 petits poussets. La véritable compétition commence.
Les victimes de cette première étape sont le Zimbabwe, le Burundi, la Tanzanie, la Namibie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Kenya et l'Angola. Y a-t-il eu de grosses surprises dans la liste des 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale? Eh bien, nous avons posé la question à Bruno Aoyo, consultant à Canal Plus à Paris. Voici ce qu'il en pense.
Quand on regarde bien le premier tour de cette CAN qui vient de passer, en fait, finalement, les surprises n'en sont pas vraiment. Madagascar a développé du jeu, a été très performant pendant cette phase de poule. L'Ouganda aussi avait fait forte impression lors de son premier match face à la République démocratique du Congo. Et finalement, l'équipe qui s'en sort très bien, c'est la RDC avec cette CAN à 24, qui, grâce à sa victoire très très chanceuse, on va dire, va tirer Madagascar pour son 8e de finale.
Les écureuils du Bénin se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en 8e de finale d'une CAN avec 3 matchs nuls en 3 sorts. Une situation due en partie à l'effet de la CAN à 24, selon Bruno Aoyo.
En ce qui concerne le Bénin, quand vous élargissez les compétitions, ce cas de figure est amené à se répéter souvent puisqu'on se souvient que dans le groupe F de l'Euro 2016, le Portugal s'était qualifié avec 3 points et ils ont remporté la compétition. Donc ça peut donner, même si Je pense vraiment pas que ce cas de figure va se répéter avec le Bénin. Ça peut donner de la confiance aux écureuils de Michel Dufuyer.
Bruno Aouyo, consultant à Canal+, il estime cependant que les favoris annoncés restent les mêmes, à commencer par le pays hôte. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Au Gabon, les contrôles de police et de gendarmerie sont très fréquents à Libreville, la capitale. Les automobilistes dénoncent les tracasseries et menacent d'augmenter les prix du transport. Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
Au volant de son taxi à Libreville, Simon Akakpo cherche désespérément comment échapper aux tracasseries de la route. Il n'en peut plus de ces sifflets annonciateurs de contrôle parfois inopinés.
Le matin, j'ai déjà dépensé 3 000. 3 000, je te dis. Mes fonds. C'est les gendarmes. Parce que quand le policier t'arrête, quand tu parles au policier, tu dépenses 500 balles. Tu sais qu'ils sont beaucoup. C'est pas là-bas seulement qu'ils sont. T'as pas les gens qui ne viennent pas aller loin. Parce que quand tu pars vers Agondje, le Dugué au Nèvre, là, tu vas te dépenser.
Lors d'une assemblée générale récente du syndicat libre des transporteurs, son président est monté au créneau pour dénoncer les tracasseries, Jean-Robert Meunier.
La multiplicité des contrôles routiers dans l'espace et dans le temps empêche les transporteurs de vaquer sereinement à leurs activités et empêche les populations gabonaises de se déplacer selon leurs activités. Les points dits de contrôle sont tout simplement devenus des points de péage disséminés le long des routes selon un système appelé système de numéros. Des sommes très importantes sont extorquées tous les jours aux transporteurs, qu'ils soient en règle ou pas.
Lassés par les raquettes et l'augmentation des prix du carburant à la pompe, les transporteurs ont récemment menacé de majorer les tarifs de la course actuellement de 100 francs CFA pour les petites distances. Une démarche à laquelle s'oppose frontalement l'Organisation gabonaise des consommateurs. Ibrahim Sejimbolo, président de l'OGC.
Les raquettes des policiers, argument ou pas argument, en fait, moi je ne trouve pas ça comme un argument. Pourquoi ? Parce que la police inflige des contraventions. Et ces contraventions doivent être suivies. Or, un taximan qui donne son argent à un policier est complice de la corruption.
Mais que faire devant l'ampleur de cette corruption sur les routes à Libreville ? Le parquet peut-il se constituer partie civile en l'absence des plaintes officielles ? La réponse de Sidonie Owe, magistrate, ancienne procureure de la République.
Si un agent public de l'État est corrompu, alors même que cette corruption est prévue et punie par la loi, le ministère public, lui, peut tout à fait engager des poursuites, peut sauter au saisir et ouvrir une enquête. Au terme de l'enquête, si les faits sont avérés à l'encontre de la personne visée, eh bien cette personne répondra devant les juridictions de jugement.
Ismaël Obiangze, Libreville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, à la faveur d'un symposium international du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour la jeunesse, notre correspondant à N'Djamena, André Komadjinga, s'est intéressé aux préoccupations des jeunes de ce pays. Son reportage.
À ma qualité champion de la jeunesse, j'éprouve aujourd'hui le sentiment de plénitude car en l'espace d'un temps relativement court, nous avons offert aux jeunes deux cadres d'échange à l'effet de disséquer eux-mêmes tout le défi lié avec leur épanouissement.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, s'adressant à des jeunes venus de plusieurs pays africains, il a engagé la responsabilité de la jeunesse africaine de proposer en toute liberté une feuille de route claire à la dimension de leur attente. Ahmad Boulama Achaman, porte-parole du collectif Ça doit changer, une organisation de la société civile tchadienne qui participe à ce symposium. Pour lui, l'avenir de la jeunesse tchadienne n'est pas pris en compte.
Nous sommes l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. Donc, nous devrons changer les choses dès maintenant. Quand j'écoutais notre président qui avait dit que lui, il est champion de la jeunesse, j'avais un peu honte. Parce que tous les présidents tchadiens qui se sont succédés, personne n'a pris le pouvoir au-delà de 40 ans. Je voudrais me présenter au conseil communal dans mon arrondissement pour changer les choses. Alors que les textes m'interdisent, il faudra que je puisse être investi par un parti politique. Il faudra laisser la jeunesse s'exprimer. Comment on peut nous exprimer tant qu'il y a la censure des réseaux sociaux? C'est vraiment déplorable.
Oumarou Abdoulaye, député jeune à l'Assemblée nationale du Cameroun, ne partage pas cette préoccupation. Pour lui, la jeunesse tchadienne ne doit pas être pressée.
La jeunesse ne doit pas rêver comme la jeunesse de l'Europe. La jeunesse, c'est elle qui fait l'histoire. Chaque chose a son temps. Si nous voulons remplacer nos aînés, nous devrons être à côté d'eux. Aujourd'hui, les jeunes veulent être présidents de la République. Les jeunes veulent être députés. Alors qu'ils ne connaissent même pas la nomenclature. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tout s'impose. Même les États les plus durs se sont effondrés à la réalité. Nous avons toujours tendance à critiquer leur gestion. C'est pas ça.
Autre problème évoqué par les jeunes, selon le point focal du mécanisme africain d'évaluation par le père Kayar Oumar Defala, c'est le manque d'emploi qui les plonge dans l'incertitude et la non-libéralisation de l'économie numérique qui oblige les jeunes africains à émigrer vers l'Europe à la recherche du mieux-être avec tout le risque possible.
C'est un problème qui les touche parce que ceux qui émigrent, c'est les jeunes à la recherche du bien-être et ils partent mourir au Sahara ou dans la Méditerranée parce que dans leur pays, il y a la pauvreté, il n'y a aucune perspective. Donc on a fait des recommandations précises des chefs d'État. Ils doivent prendre en compte cette donne pour éviter que notre jeune il émigre.
Au Tchad, la porte de l'intégration à la fonction publique est fermée depuis 2016. L'accès aux réseaux sociaux est restreint il y a environ un an et demi et l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle est fixé à 45 ans, excluant d'office les jeunes ambitieux. André Kodumba Dingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'Iran a déclaré aujourd'hui que dès dimanche, il allait commencer à dépasser la limite imposée par l'accord de Vienne pour l'enrichissement de son uranium. L'annonce du président Hassan Rouhani intervient alors que les tensions sont exacerbées entre l'Iran et les États-Unis. Claire Morin-Gibour a joint le chercheur à l'université de Princeton, spécialiste des questions de sécurité nucléaire, Sébastien Philippe.
Pour l'instant, l'accord a limité l'Iran à un enrichissement de 3,67%. L'enrichissement de l'uranium, entre 3 et 5% d'enrichissement dans l'isotope uranium 235, c'est ce qu'on trouve dans les réacteurs nucléaires civils classiques tout autour du monde. Dépasser 3,6% pour aller vers 5%, ça poserait pas vraiment de gros problèmes. Ensuite, il y a une étape intermédiaire qu'on place autour, un peu artificiellement, autour de 20%. Et c'est là qu'on va trouver du combustible pour des réacteurs plus spécialisés de recherche, par exemple des réacteurs pour produire des isotopes pour la médecine. Et il y a un réacteur qui fonctionne avec ce type de combustible à Téhéran. Et donc avant l'accord de 2015, l'Iran produisait de l'uranium enrichi jusqu'à juste un peu en dessous de sa limite de 20%. Et en gros... Non, je pense ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'on va retourner vers cette limite-là. Ce seuil de 20%, c'est un peu le seuil critique, la ligne rouge. Au-delà de 20%, on rentre dans des applications qui sont plus d'ordre militaire, jusqu'à, en gros, on va dire, la ligne un peu... La prochaine ligne, c'est 90, et c'est celle vraiment du combustible
dont on se sert
militaire pour
les
armes.
Uniquement militaire, c'est un usage uniquement militaire.
C'est pas exactement uniquement militaire, non. Il y a encore des réacteurs de recherche qui utilisent de l'uranium très hautement enrichi, qui peut être utilisé dans les armes nucléaires, mais qui a aussi des applications civiles encore.
Est-ce que les États-Unis, l'Europe, ont raison de s'inquiéter à ce point, selon vous?
Il est important de s'inquiéter plus par rapport à la situation actuelle autour de l'Iran et au Moyen-Orient. Et les tensions qui existent entre les États-Unis, l'Iran, l'Arabie Saoudite, on dirait, on est à un niveau de tension très élevé et donc on peut avoir un peu des conséquences. Après, les conséquences directes, ce n'est pas encore aujourd'hui l'Iran d'avoir une capacité d'avoir assez de matériaux pour faire une arme nucléaire. Là, on se dirige plutôt vers revenir au même stade qu'on était avant le deal de 2015. Il y a une théorie, on va dire, qui est qu'une fois qu'on possède l'arme nucléaire, c'est suffisant pour dissuader tout adversaire. Je ne pense pas que ce soit réellement le cas, et surtout pour les petites et, on va dire, moyennes puissances. Par contre, ce qui est dangereux, c'est les situations dans lesquelles on a vraiment un conflit qui bouillonne et des situations sur lesquelles on peut perdre le contrôle, quoi. C'est plutôt dans cette situation où on a peur que l'arme puisse être utilisée.
C'était Sébastien Philippe, spécialiste des questions de sécurité nucléaire et chercheur à l'université de Princeton.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la monnaie ouest-africaine que les 15 pays de la CEDEAO entendent mettre en place en 2020. Ce projet, vieux de plus de 35 ans, a pour but de faciliter les échanges et aboutir à une meilleure intégration régionale. Les 8 pays ouest-africains utilisant le CFA sont-ils prêts à abandonner leur monnaie commune pour l'écho? Tous les pays seront-ils prêts à temps? Quels sont les critères de convergence pour intégrer la zone éco? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Réagissez également sur la page Facebook de VOA Afrique.
Washington se part et se prépare pour la fête nationale demain, le 4 juillet, Independence Day. Cette semaine, cette année, les célébrations sur l'esplanade seront bien différentes. Le président américain Trump a décidé de faire un discours à la nation et a aussi ordonné une parade militaire, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Lionel Gaïma.
Défilé de chars de combat et de véhicules blindés et survol d'avions de guerre, du jamais vu pendant la fête nationale dans la capitale fédérale américaine. Jamais non plus il n'y a eu de discours présidentiel à cette occasion. Mais le président Trump tient à avoir une célébration pas comme les autres et assure qu'il veut honorer l'armée américaine. Ses critiques l'accusent de politiser un événement unificateur de la nation, mais d'autres Américains s'en réjouissent. Venu de la ville d'Abilene, en Arkansas, John Wigo est en visite à Washington.
Je pense qu'il est le président et qu'il a l'obligation de parler à son peuple. Si c'est ce qu'il veut et souhaite faire des marches du mémorial Lincoln, je suis entièrement d'accord.
Monsieur Trump a dit ouvertement qu'il a été très impressionné par ce qu'il a vu à Paris le 14 juillet 2017 lors de la fête nationale française. Depuis, il a souvent répété qu'il voulait la même chose à Washington. Durant le récent sommet du G20 à Osaka au Japon, le président Poutine l'a même invité à une parade militaire à Moscou. D'après Yuri Ushakov, conseiller du président russe, Monsieur Trump a écouté avec beaucoup d'intérêt.
Nous avons invité le président des États-Unis à venir assister au 75e anniversaire de la victoire au terme de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai de l'année prochaine. Le président américain a réagi très positivement.
Certains Américains s'interrogent sur le coût d'une parade militaire pour le contribuable et d'autres froncent les sourcils devant le goût du président pour les parades militaires. Certains opposants ont même obtenu l'autorisation d'amener sur le National Mall un énorme ballon représentant Trump comme un bébé, comme celui déployé à Londres pendant sa visite. Ce qui n'est pas non plus du goût de tout le monde. Jason Ballard est originaire du Missouri.
Nous sommes venus ici après trois semaines de route depuis Kansas City, dans le Missouri. Cette fois-ci, nous sommes venus pour voir les feux d'artifice du 4 juillet.
Et les feux d'artifice de l'Independence Day, c'est l'un des plus beaux spectacles à voir dans le ciel de Washington.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Firmin Max Koyaweda. Justine Twait était à la technique. C'était Raissa Girondin à la présentation. Restez connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA